VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du lundi 1er avril 2019. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Niger, le ministre de l'Intérieur, Mohamed Bazoum, a été investi par le parti au pouvoir, candidat à la présidentielle de 2021.
Et au Burkina Faso, Gilbert Noël Ouédraogo, un ancien allié du président déchu Blaise Compaoré, a été investi par l'ADF-RDA, candidat à la présidentielle de 2020.
Au Mali, des enquêteurs nationaux et aussi de la MINUSMA se rendent dans le village d'Ogossagoupeul où quelques 160 habitants ont été tués le 23 mars.
La Sierra Leone a interdit pour un mois, à compter de ce lundi, la pêche industrielle dans ses eaux.
La Maison-Blanche a défendu hier la décision du président Donald Trump de supprimer des aides financières à trois pays d'Amérique centrale.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Niger, le ministre de l'Intérieur, Mohamed Bazoum, a été investi candidat du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, le PNDS, au pouvoir, à la présidentielle de 2021, à laquelle l'actuel président Mahamadou Issoufou ne se présentera pas. Des détails avec Nathalie Barge.
La cérémonie d'investiture s'est déroulée au palais des congrès de Niamey devant des milliers de militants de la coalition au pouvoir. Monsieur Bazoum a déclaré que son investiture comme candidat était le premier acte qui symbolise la concrétisation de la volonté du président Mahamadou Issoufou de respecter la loi sur la limitation des mandats. Ce proche du président est natif de Ngourti dans la région de Diffa, théâtre d'incursions meurtrières des djihadistes nigérians. Deux autres poids lourds sont déjà dans la course à la présidentielle, Seyni Oumarou, leader du Mouvement National pour la Société de Développement MNSD, le parti de l'ex-président Mamadou Tandja, a été investi le 23 mars comme candidat. Et l'ex-président Mahamane Ousmane a annoncé qu'il serait candidat. Oumarou et Ousmane étaient arrivés 3e et 4e au scrutin de 2016, dont ils avaient contesté la régularité. Les élections présidentielles et législatives doivent être précédées par des élections municipales et régionales. L'opposition, dont le parti de Hama Amadou, refuse de siéger à la commission électorale et conteste le code électoral.
Au Burkina Faso, c'est Gilbert Noël Ouédraogo qui a été investi hier candidat à la présidentielle d'octobre 2020 par sa formation selon une motion lue à la clôture d'un congrès à Bobo-Dioulasso. Maître Ouédraogo est le leader de l'ADF-RDA, l'Alliance pour la démocratie et la Fédération Rassemblement démocratique africain. Il s'agit de l'ancien principal parti allié du régime de l'ex-président Blaise Compaoré, renversé fin octobre après 27 ans au pouvoir.
Au Mali, des enquêteurs du pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée se sont rendus hier, selon l'AFP, dans le village d'Ogossagoupeul, où quelques 160 habitants ont été tués le 23 mars. La veille, des enquêteurs de la mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA, étaient allés dans le même village. Cette tuerie a été imputée à des membres présumés de groupes de chasseurs Dogon, près de la frontière avec le Burkina Faso, selon des témoins et les autorités locales. 5 hommes reconnus par des rescapés comme de possibles participants à la tuerie ont été arrêtés et transférés à Bamako, avait-on appris vendredi de sources militaires maliennes.
En République démocratique du Congo, Beni a boudé l'élection législative partielle. Ce manque d'engouement serait, selon un électeur, un rappel aux autorités de Kinshasa qui les ont privés de l'élection présidentielle du 30 décembre et de leur candidat favori, Martin Fayulu. Raison invoquée alors par la commission électorale, la CENI, l'épidémie d'Ebola et l'insécurité à Beni-Boutembo et un conflit communautaire qui venait de faire des centaines de morts mi-décembre à Yumbi. Ils votaient pour désigner les 15 derniers députés de l'Assemblée nationale ainsi que leurs députés provinciaux 3 mois après les autres Congolais, quelques 40 millions d'inscrits au total, qui ont officiellement déjà choisi leur président, Félix Tshisekedi, qui a été proclamé président et investi dès le mois de janvier.
Ressources halieutiques, la Sierra Leone a interdit pour un mois, à compter de ce lundi, la pêche industrielle dans ses eaux afin de reconstituer les stocks de poissons, une mesure saluée par les pêcheurs de ce pays d'Afrique de l'Ouest et les ONG écologistes. En raison de la pêche illégale, non réglementée et non déclarée, de 2010 à 2016, la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée et la Sierra Leone ont perdu environ 2,3 milliards de dollars par an en chiffre d'affaires, avait estimé Greenpeace en 2017.
En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika a nommé dimanche un nouveau gouvernement conduit par Noureddine Bellouli, désigné premier ministre le 11 mars dernier, un gouvernement composé de 27 ministres, dont 8 de l'ancienne équipe Jean-Roger Bion.
Le chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah, reste vice-ministre de la Défense et en deuxième position dans l'ordre protocolaire derrière le premier ministre. Le portefeuille de la Défense est détenu par le président Bouteflika lui-même. Ramtam Lamamra, nommé vice-premier ministre et chef de la diplomatie le 11 mars, ne figure pas dans la liste. C'est Sabri Boukadoum, ambassadeur d'Algérie à l'ONU, qui hérite des affaires étrangères. Noureddine Bedoui avait promis un gouvernement de technocrates, puisant dans les jeunes compétences, hommes et femmes. L'équipe ne compte pourtant que 5 femmes, dont 3 figuraient déjà dans l'ancien gouvernement pour 23 hommes. M. Bedoui est remplacé à l'intérieur par le secrétaire général du ministère, Salahidine Damoun. Le gouverneur de la Banque d'Algérie, Mohamed Loukal, est nommé ministre des Finances et le PDG de Sonel Gaz, Mohamed Arkab, ministre de l'Énergie.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La Turquie attend avec anxiété ce lundi les résultats d'élections municipales à Istanbul. Une défaite dans cette ville serait dévastatrice pour le président Recep Tayyip Erdogan, qui a déjà essuyé à Ankara un revers inédit en 16 ans de pouvoir, selon les résultats partiels. La bataille se jouera à quelques milliers de voix entre les deux principaux candidats qui ont chacun revendiqué la victoire à l'issue de ce scrutin local qui s'est tenu dimanche et qui avait valeur de plébiscite pour M. Erdogan en pleine tempête économique. Le président turc a pesé de tout son poids dans la campagne, tenant plus de 100 meetings en moins de 2 mois.
La Maison-Blanche a défendu hier la décision de supprimer des aides financières à 3 pays d'Amérique centrale en réclamant qu'ils fassent davantage pour empêcher les migrants de se rendre aux États-Unis. De nouveau, Nathalie Barge.
Si nous devons donner des centaines de millions de dollars à ces pays, ils doivent faire davantage, a déclaré le secrétaire général de la présidence américaine Mick Mulvaney sur la chaîne CNN. Le président Donald Trump a durci le ton ces derniers jours, accusant le Mexique d'inaction et renouvelant ses menaces de fermer la frontière. Il s'en est pris aux pays du Triangle du Nord, d'où partent de nombreux migrants. Le Honduras, le Guatemala et le Salvador ont pris notre argent pendant des années et ne font rien, a-t-il tweeté jeudi. Le département d'État a mis fin au programme d'assistance pour le Triangle du Nord pour les 2 dernières années. En décembre, Washington et Mexico s'étaient engagés ensemble à réaliser d'importants investissements dans cette région et le sud du Mexique. 100 000 personnes vont franchir la frontière ce mois-ci. C'est une crise humanitaire, une crise sécuritaire, a estimé M. Mulvaney, ajoutant que aider ces pays ne fonctionne pas suffisamment pour résoudre la crise frontalière. Sur la chaîne ABC, il a lancé à l'endroit de ces pays d'Amérique latine « Nous avons besoin de plus d'action ».
En visite en Israël, le président du Brésil, Jair Bolsonaro, a annoncé dimanche l'ouverture d'un bureau diplomatique brésilien dédié aux affaires économiques aux côtés du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui espère le transfert de l'ambassade brésilienne dans la ville sainte. Retrouvons Jean-Roger Bion.
Nous venons de prendre la décision de créer ici à Jérusalem un bureau diplomatique dédié aux affaires économiques pour la science, les technologies et l'innovation, a déclaré M. Bolsonaro au cours d'une conférence de presse commune avec le premier ministre israélien. J'espère que ceci est le premier pas vers l'ouverture, quand le temps sera venu, d'une ambassade du Brésil à Jérusalem, a pour sa part confié Benjamin Netanyahou. M. Bolsonaro avait annoncé durant sa campagne présidentielle vouloir transférer l'ambassade du Brésil en Israël de Tel Aviv à Jérusalem, comme l'ont fait les États-Unis. Les deux dirigeants ont par ailleurs signé 6 accords portant notamment sur la coopération dans les domaines de la défense, la sécurité et les technologies. Le Brésil a changé, les questions idéologiques ne sont plus pertinentes. Nous voulons intensifier notre commerce avec tout le monde, a déclaré M. Bolsonaro juste avant la signature de ces accords.
Le pape François a espéré avoir lancé un processus d'assainissement de l'Église catholique, tout en reconnaissant s'être abstenu de sanctions pour l'exemple des prêtres coupables d'abus sexuels. Dans un entretien avec une chaîne de télévision espagnole, le souverain pontife a dit comprendre que beaucoup aient été déçus du manque de résultats concrets du sommet sur la pédophilie qui s'est tenu en février au Vatican.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Le Togo a lancé une procédure innovante pour le rachat des céréales auprès des paysans ainsi que la bancarisation des coopératives. L'Agence nationale de la sécurité alimentaire déployera ses agents sur le terrain pour constater la qualité du stock avant de virer directement l'argent sur le compte de la coopérative. L'agence Ecofin rapporte que cette procédure garantit aux producteurs le virement sur leur compte des fonds provenant de la vente de leur surplus de production. En Guinée, le consortium SMB Winning a lancé les travaux d'une nouvelle voie ferrée d'Apilon Santou pour 1,2 milliard de dollars. Longue de 135 km, elle aidera à désenclaver une partie du pays d'est en ouest en reliant notamment le terminal d'Apilon du port de Bouquet et les gisements de la SMB situés à Santou et Ouda vers la préfecture de Télimélé. Elle aidera aussi à développer un corridor agricole et à créer des milliers d'emplois. La dernière construction d'une ligne de chemin de fer en Guinée date des années 70. Pour terminer, après le passage meurtrier du cyclone Idai, la FAO cherche 19 millions de dollars pour relancer les récoltes, l'élevage, la pêche et la production alimentaire au Mozambique. La vie et les moyens de subsistance des agriculteurs et pêcheurs du Mozambique, mais aussi du Malawi et du Zimbabwe, sont gravement menacés.
À présent, les sports avec Élisée Ungpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football pour commencer, on fait le point sur quelques championnats africains.
Et direction le Togo, avec la 22e journée du championnat. Deux clubs partagent la première place avec 37 points. La SCK, victorieuse 2-0 du champion en titre, la S Togo Port, et Maranatha, vainqueur 1-0 de Gomido à Kalimé. Haute victoire en déplacement, celle de Sarah 2-0 à Guigenti et de Ange 1-0 à Boélosou. En ouverture de cette 22e journée, le dynamique togolais est allé chercher le nul 1 partout à Carafas, à Asco.
16e journée en Guinée et le fauteuil de leader change de nom.
L'AS Kaloum n'est plus leader de la Ligue 1. Elle est délogée de son fauteuil par FC Sandoba qui, grâce à son succès 3-1 contre Renaissance, est désormais en tête du classement avec 27 points. Changement également à la tête de la Ligue 1 en RDC. L'AS V Club prend la première place aux dépens de TP Mazembe, battu par Saint-Éloi-Lupobo dans le derby de Lumumbashi. Bousculé par les cheminots, tranchant et impliqué, les corbeaux se sont inclinés pour la première fois de la saison en Vodacom Ligue 1 à Kibasa Maliba.
En Égypte, pas de vainqueur lors du derby du Caire entre Al Ahly et Zamalek.
Le choc tant attendu entre les deux plus grands clubs égyptiens, Zamalek premier au classement et son dauphin Al Ahly, s'est achevé sur un match nul 0-0. Le derby entre les deux formations du Caire, délocalisé près d'Alessandrie, pour des raisons de sécurité, s'est déroulé à huis clos pour éviter les violences entre supporters récurrentes en Égypte.
Basket avec l'Africa League 2019 et on connaît les résultats des quarts de finale aller.
Oui, ils ont pris fin hier avec la courte victoire de la jeunesse sportive kaouranaise dans le derby tunisien face à l'étoile sportive de Rades, score 68-67. Un peu plus tôt, on a eu également droit à un duel 100% angolais et qui a tourné à l'avantage de Primero do Agosto, 70-57, devant Petro Atletico. Ou encore Smoucha, qui a joué le même tour 91-82 à un autre club égyptien à l'allée du Caire. Et puis, notons le match nul 69 partout entre les Nigériens de Defender d'Abuja et les Marocains de l'AS Salé. Les matchs retour se joueront dans la semaine du 5 au 13 avril prochain. La NBA à présent. Et avec vous, Idrissa, les résultats de la nuit dernière.
Atlanta et Milwaukee, 136 à 135. Dallas et Oklahoma City, 106 à 103. Et les Lakers et la Nouvelle-Orléans, 130 à 102. Sacramento et San Antonio, 113 à 106. Washington et Denver, 95 à 90. Golden State et Charlotte, 137 à 90.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le Rwanda célèbre cette semaine le 25e anniversaire du déclenchement en avril 1994 du génocide qui a coûté la vie à des centaines de milliers de Tutsis et Hutus modérés. Notre envoyé spécial à Kigali, Idriss Fall, a recueilli les témoignages suivants sur cette horreur du XXe siècle.
Et je me rappelle que cette nuit même, je suis allé me réfugier dans une des familles Hutus. Ils m'ont même donné ou loger, ça je ne l'oublierai jamais. Toute la famille est éparpillée, certains sont dans les champs, d'autres dans les plafonds et d'autres je ne sais où. Et on s'est retrouvés par hasard, il y avait un bruit extraordinaire, un grand bruit comme si c'était un marché. Et on entendait un seul slogan, le programme était d'exterminer les Tutsis. Non pas tuer, mais exterminer. Alors chacun a pris son chemin. Le mien, c'était vers la paroisse de Mugina. Et curieusement, chacun avait cette idée d'aller à la paroisse, mais tout le monde est allé à sa façon. Et on s'est retrouvé à la paroisse et on s'est dit, au moins ici quand même, nous serons sauvés. On a été attaqués de partout, partout. Le 25 et le 26, des dates que je n'oublie jamais, et la paroisse avait deux églises. Mes parents étaient dans cette ancienne église, cette petite église, et nous, on était dans l'autre. La finale, on n'a même pas tenu 30 minutes. Et je n'oublierai pas cet enseignant qui m'avait dit, c'est la fin de Mututsi. Et ce soir, le soir du 25, c'est le soir que j'ai perdu ma mère, ma grande sœur, et ma petite sœur, à 11h pétante, c'était l'attaque. Fusil, grenade, fusil, grenade. Tout le temps, minute par minute, gourdin, fusil, machette, grenade, marteau. Le mot d'ordre, c'est holema et en file indienne. Et nous sommes partis dans un jardin de l'église. Je crois que nous étions autour de 10 000. Une fois dans le jardin, c'était la position assise. C'est une machette, je ne sais pas si c'est un gourdin. De toute façon, je me suis évanoui. Il m'a asséné un coup sur la tête, je crois que c'est une serpette. Il m'a asséné un coup sur la tête et je suis tombé. Et toutes les autres cicatrices, j'ai senti quelque chose dans le dos pendant que je m'évanouissais, mais je n'ai jamais su quoi.
Tous, on était 8 dans la famille. Mes frères étaient 8. Papa et maman, tous, je suis seul. Je suis là, avec les cicatrices sur le cerveau. J'essaie de me prendre les médicaments chaque jour. Chaque jour, je suis sur les médicaments parce que je me vanissais. Et par après, les médecins m'ont dit que la solution, c'est de prendre. J'ai été une fois en Inde, j'ai pas en galop. Par après, ils m'ont dit que je dois prendre des médicaments pour arrêter. J'avais des convulsions. Je tombais par terre au moins une fois par deux jours. Mais heureusement, après que je prends les médicaments, je vais bien.
Des témoignages recueillis à Kigali par notre envoyé spécial au Rwanda, Idriss Fall, le Rwanda qui commémore cette semaine le 25e anniversaire du génocide de 1994.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24 heures sur 24.
Au Tchad, plus de 3000 agents du groupe Millicom Tigo entament leur deuxième semaine de grève sèche et illimitée sur l'ensemble du territoire national. Les employés de cette société de téléphonie mobile, qui demandent le paiement de leurs droits sociaux, estiment que sa vente à Maroc Telecom n'a pas été conforme à la procédure. De N'Djamena, les précisions de notre correspondant André Kotmadjingar.
Ces employés disent être informés avec stupéfaction le 14 mars 2019 de la part de leur responsable de la nouvelle de la vente du groupe Millicom Tigo Tchad par Telecom Maroc. Or, selon la loi en vigueur, en cas de vente d'une entreprise, les employés doivent être informés au moins 2 mois à l'avance. Mécontents de ce comportement, les employés ont cessé toute activité le 25 mars dernier pour exiger l'application de la convention d'entreprise signée en 2016 entre les responsables syndicaux et ceux de la direction générale de Tigo. Une convention qui garantit leurs acquis sociaux en cas de vente de la société. Au micro de VOA Afrique, quelques employés expriment leur mécontentement.
Contre toute attente, nous avons reçu par des canaux officiels des nouvelles concernant la vente de cette entreprise. Il y a eu des manœuvres dilatoires nous disant que ce n'est pas une vente, donc qu'il n'y a pas exécution de notre convention. On nous parle d'un transfert indirect et que notre convention ne saurait être appliquée. On est pantois.
On a servi fidèlement cette boîte et aujourd'hui on se rend compte qu'on est lésé.
Nous sommes des responsables de famille. On a travaillé pendant 10 ans, pendant 13 ans pour cette entreprise. Ce n'est pas pour qu'un beau matin quelqu'un se lève et fasse ce qu'il veut. Ça ne va pas se faire.
Pour le chargé de communication et relations publiques de Millicom Tigo Tchad, Maloumi Mustapha Abakar, les négociations sont en cours et que le droit de tous les employés seront protégés.
Tigo est une compagnie respectueuse donc, des lois du pays dans lequel elle opère. Donc, la direction de Renave est en train d'étudier cette audience-là et espérons que pour le bonheur de tout le monde, une solution à l'amiable soit trouvée. Nous avons eu des garanties de Maroc Telecom que rien ne change. Ce qui va changer, c'est beaucoup plus la stratégie. Mais le reste, les gens vont être reconduits normalement.
Le secrétaire général de l'Union des syndicats du Tchad-Gounou Vaima Ganfar et que son organisation a paraffé le document estime qu'il n'y a rien à négocier avec les employés.
La direction de Tigo est en train de faire un peu de dilatoire. S'il y a vente, chacun des travailleurs peut choisir là où il s'en va. Les gens qui vont rester, il faut au moins leur garantir 2 ans. D'abord, dans un premier temps, ils disent qu'il n'y a pas vente. Donc, sur ce plan précis, vraiment, Tigo est carrément en porte-à-faux. Il n'a pas respecté la procédure. Normalement, les travailleurs même devaient demander les dommages d'intérêt. Il n'y a rien à négocier. Tout a été prévu dans la convention. On négocie, c'est quand quelque chose n'est pas prévu.
Installé au Tchad depuis 2005, Millicom Tigo est l'une des sociétés qui contribue à la réduction du taux de chômage des jeunes diplômés sans emploi. Mais non seulement elle est asphyxiée par des taxes exorbitantes, mais la restriction du réseau Internet imposée à tous les opérateurs de téléphonie mobile par le gouvernement tchadien depuis 1 an a fait baisser considérablement ses chiffres d'affaires. André Kodmadingar N'Djamena, VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
En Afrique du Sud, l'avortement est légal au cours des 20 premières semaines de grossesse et il est fourni gratuitement dans les cliniques gérées par le gouvernement. Cependant, interrompre une grossesse dans un cadre à la fois légal et sécurisé est un défi. De nombreuses femmes sont confrontées à une forte stigmatisation ou à la résistance du personnel de santé lorsqu'elles cherchent à avorter. Par conséquent, en Afrique du Sud, plus de la moitié des avortements sont pratiqués de manière clandestine par des prestataires sans licence. Dans la ville minière de Rustenburg, le problème est devenu si grave que le groupe Médecins sans frontières a créé un dispensaire spécialisé. Anita Powell de VOA est allée à la rencontre d'une de ces jeunes filles cherchant à avorter. C'est dans un reportage que reprend ici Dilly Dico.
Cette étudiante sud-africaine est enceinte de 16 semaines, appelons-la Precious, comme elle l'a suggéré. Sa meilleure amie est également enceinte du petit copain de Precious. Cette grossesse imprévue a bouleversé la vie de Precious et l'a amenée à prendre ses décisions difficiles.
I want this thing to be done as quickly as...
Je veux que cela soit fait aussi vite que possible, parce que je ne peux plus supporter cette situation. Je pense à ce qui se passe là. Je n'arrive pas à penser à des choses positives. Et si cela ne marchait pas, que vais-je faire alors? Devrais-je en finir avec ma vie?
Dans sa recherche d'un hôpital pratiquant l'avortement, Precious a rencontré tellement de désapprobation et fait face à tant de stigmatisation qu'elle a dû se rendre à Rustenburg, à 2 heures de Johannesburg, dans une clinique de santé reproductive dirigée par le groupe Médecins Sans Frontières. Les professionnels de la santé reproductive expliquent que de telles attitudes et une forte réprobation poussent chaque année plus de 10 000 femmes sud-africaines à pratiquer des avortements clandestins. Selon le ministère de la Santé, les avortements illégaux représentent 25% des décès dus à une fausse couche septique. Kgaladi Mfalele est en charge du projet de Médecins Sans Frontières à Rustenburg. Il explique que les services d'interruption de grossesse de la clinique sont très sollicités. Il dit pratiquer jusqu'à 100 avortements de premier trimestre par mois et reçoit des femmes venues du Botswana où l'avortement est illégal.
J'y repense et je me dis, pourquoi est-ce que je me suis lancé dans cette profession? Je voulais travailler dans le domaine de la santé parce que mon souhait était d'aider les gens. Il y a clairement une zone d'ombre, car si personne ne le fait, quelqu'un doit forcément le faire. Et moi, j'aime travailler avec les gens.
Christa Tsomele, une infirmière qui pratique des avortements depuis une décennie, se dit fière de son travail. Elle dit également être convaincue que les propos de certains de ses collègues contribuent à la stigmatisation de l'avortement.
Si vous ne pouvez pas aider une patiente en tant qu'infirmière, vous devez la rediriger vers un endroit où elle pourra obtenir les soins recherchés. Ne vous contentez pas de lui dire non, je ne peux pas faire ça ou je ne peux pas vous aider en laissant la patiente se débrouiller. C'est la raison pour laquelle elles finissent par aller chez des charlatans. Lorsque vous laissez la patiente se débrouiller, elle décide d'aller dans la rue et là, elle court le risque de mourir.
C'est justement cela qui motive Christa, en dépit des critiques, des larmes et des histoires difficiles qu'elle entend tous les jours. Parce que, dit-elle, que les gens soient d'accord ou pas avec son travail, elle aide les femmes à rester en vie.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
La chanteuse guinéenne Natou Camara vient de sortir son premier album solo d'Imedi. La leader des Ideal Black Girls, premier groupe de rap ouest-africain essentiellement féminin et féministe, compose et arrange elle-même ses chansons jouées à la guitare. Nous l'avons reçue à la Voix de l'Amérique pour un enregistrement avec le maître de la kora Yakuba Sissoko et Faluso Mimi Odjembe. Natou Camara avait comme choriste la chanteuse new-yorkaise Lindsay Wilson. Au micro de Nathalie Barge, Natou parle de la création de cet album. Il s'agit d'un extrait d'une vidéo à paraître. Dans Le Monde au féminin de VO Afrique.
Dimedi, ça veut dire l'enfant. Ça parle du droit de l'enfant et aussi j'ai un peu augmenté mon enfance parce que vous savez mon enfance a forgé ce que je suis aujourd'hui et moi je me suis dit que écoute les enfants ont besoin d'un repère. Ils ont besoin d'avoir une bonne mémoire parce que c'est ce qui les suit quand ils grandissent, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils traversent dans la vie d'adulte. Le point de départ commence à la naissance lorsqu'ils sont jeunes. Tout mon album est concentré sur la femme, les enfants et le droit de l'homme.
En fait, cet album, il a été tourné à Bamako, c'est ça?
Ouais.
Il a une histoire intéressante, hein?
Oui, oui. L'album, il est fait à Bamako, à Mofu. Au studio Mofu, le studio de Salif Keita. Au fait, j'ai rencontré le groupe à New York et puisque à chaque fois que tonton Salif il vient à New York, je viens le voir. Cette fois-ci là, j'ai juste décidé, écoute, je veux juste enregistrer 2 chansons à New York. Alors j'ai joué avec ces musiciens à New York, 2 chansons. Mais après, lorsqu'ils sont rentrés, j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Ils me donnaient la couleur que je cherchais et en même temps, le musicien Jesu Mori Kante. Il m'a appelé, il me dit, écoute, petite sœur, tu as un très bon talent et je pense que ce que nous on a entendu, le Mali peut te donner beaucoup de choses et ils peuvent faire ça et ça va te coûter aussi moins cher. Et moi, j'ai fait ma valise, hein, j'ai pris la guitare, je suis partie. J'ai fait 1 mois avec eux, mais voilà, j'ai eu une mémoire magique. Les gens là-bas, ils pensent que moi je suis... Ils disent, elle est génie, elle, comment elle arrive à faire tout ça, arranger. Mais moi, je pense que j'étais dans une école parce que j'ai vu combien de fois lui, un grand guitariste comme Jesu Mori Kante, qui est très humble. Il m'a pas poussé, il m'a laissé faire ma guitare. J'ai fait tout ce que je voulais moi-même. J'ai arrangé l'album moi-même. Donc ça m'a challengé. J'ai voulu découvrir qui je suis en tant qu'artiste. Et ils m'ont donné la place pour ça. Et voilà, cet album me va droit au cœur à cause de toutes les expériences que j'ai eues.
sera mon nana. Mama roni de quoi nous sommes moutalido. Quoi nous sommes, yeah. Quoi nous sommes moutalido.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith, merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.